Alléluia, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous vous souvenez du dimanche 19 janvier, la prédication que j'ai pu amener? Alors là, ça y est, je vous vois en train de réfléchir. Il y en a qui creusent, ils creusent tellement pour se souvenir. Mais qu'est-ce qu'il a pu dire ce cher frère, ce 19 janvier? Alors, certains sont en train de communiquer parce qu'ils veulent pas le dire à tous. Ils veulent le garder pour eux. Vous rappelez qu'on avait pris, on avait partagé sur les vallées? Ah, et oui, du coup, et voilà. Donc, les vallées, non seulement les vallées, mais les vallées et leurs enseignements. Parce qu'en fait, la vie est souvent comparée, nous avions vu cela, je fais juste un petit récapitulatif, la vie est souvent comparée, la marche chrétienne, à une montagne à gravir. Et donc, la vie chrétienne n'est pas un sommet après l'autre. C'est vallée, sommet, vallée, sommet, et puis au fur et à mesure, on progresse comme ça. Alléluia. Alors, les vallées représentent toujours, toujours dans nos vies, les moments les plus bas. À chaque fois qu'on a été les plus bas, c'est là où on traverse la vallée. Et donc, il y a une promesse ce matin pour chacun d'entre nous. C'est un verset d'introduction qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 3 et le verset 5. Luc 3, verset 5. Promesse de la part de notre Seigneur qui nous dit « Toute vallée sera comblée. » Alléluia. « Toute montagne et toute colline sera abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Amen. » Nous disons merci Seigneur pour ta parole. Donc il y a cette promesse que les vallées seront comblées. Et on peut dire ce matin, chacun d'entre nous, on a traversé des vallées difficiles, des vallées où le Seigneur a voulu nous parler à nos cœurs. Et à chaque fois que on se souvient de cela, on dit, on déclare que oui, ce verset, nous pouvons le déclarer, toute vallée sera comblée ou alors a été comblée. Et toute vallée sera comblée. Alléluia. Ça, c'est la marche par la foi. Donc, si vous vous souvenez, nous avions vu la dernière fois la vallée d'accord. Et la vallée d'accord signifie trouble. Et des fois, on peut se retrouver dans la vallée du trouble. Dans la vallée où on est troublé par une situation, une circonstance, quelque chose que l'on vit, qui vient nous perturber, qui vient nous bousculer fortement. Et on avait vu dans cette vallée également que le jeune David va se lever. C'est là où il y a eu cette fameuse bataille, hein. Donc de David et de David contre Goliath. Et c'est vrai que il y a des géants dans nos vies qui ont besoin qu'on leur arrache la tête. Alors pas par nos propres forces, mais par sa force toute puissante. Alléluia, parce que Dieu veut nous rendre libres. Même pas un amen, hein. Alors au moins un soupir ou quelque chose, hein. Alléluia, amen, Dieu veut nous rendre libres, que le Seigneur soit béni, et le Seigneur veut nous sortir de cette vallée du trouble. Ensuite, nous avions vu la vallée d'Ela, qui signifie l'orgueil humain. Et nous avions vu que, quand on donne notre vie au Seigneur, le reste du temps, le Seigneur se préoccupe de déraciner ce vieil homme qui est là. Tous nos problèmes viennent de lui, hein. Tous nos problèmes viennent de cet orgueil, donc, qui est là et qui veut prendre toute la place. Et on avait vu que le Seigneur veut nous sortir de là afin que nous soyons obéissants, attentifs, que nous puissions écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Alors certes, il n'y a rien qui est facile, hein, parce que déraciner quelque chose, à un moment donné, il y a comme une douleur, hein, parce que finalement, on est habitué, hein, avec ce vieil homme qui est là. La parole de Dieu nous demande d'être intransigeant avec cet homme-là, ce vieil homme qui veut prendre la place, mais laisser au contraire et alimenter constamment donc cet être régénéré, celui qui a fait cette expérience avec le Seigneur, qui à un moment donné a découvert que la vie de Dieu lui a été donnée Et donc, c'est cet être-là qui a besoin d'être alimenté. Et quand on l'alimente par la présence du Seigneur, par la louange, par les prédications, les enseignements, évidemment la prière, alors cet être-là, il se fortifie, et quand viendra les épreuves, on résistera, alléluia, parce que les racines seront profondes, et même si ça secoue, on dira, Seigneur, je fixe mes regards sur toi, parce que c'est toi qui viens me délivrer. Amen. Et puis, on avait vu une troisième vallée, c'était la vallée de Josaphat, qui signifie jugement. Et on avait vu ensemble que, le jugement s'en vient. Le jugement vient. Le Seigneur vient juger la terre, on vient de le chanter. Il vient juger la terre. Nous tous qui sommes ici présents ce matin, nous sommes convoqués au tribunal de Dieu. Que l'on soit d'accord ou pas, ça ne change rien au problème. Nous comparaîtrons tous. Alors, la Bible nous dit, et c'est la volonté de Dieu, on l'a vu hier avec les jeunes, hein, la volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous soyons trouvés devant ce tribunal, et puis le Seigneur nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, hein, tu as été fidèle en peu de choses. Et non pas, dehors, je vous connais pas. Ça serait tellement terrible. C'est le risque qu'on peut prendre. Que le Seigneur nous aide vraiment à attendre ce temps de jugement, pas avec crainte, pas avec tremblement, mais avec une joie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il va le dire, hein, en fait, je suis tiraillé des deux côtés, il va dire. D'un côté, j'aimerais aller vers le Seigneur, mais de l'autre, il y a tellement d'hommes et de femmes à sauver. On a chanté, donc on vient de le chanter, que nous voulons crier haut et fort, que notre Seigneur sauve, délivre encore aujourd'hui. Alléluia. C'est le seul message de l'Église. C'est pas simplement l'Église nous réunir pour nous faire du bien. Évidemment, ça va de soi. Mais c'est également porter très haut les couleurs du Seigneur. Alléluia. En disant que si tu donnes pas ta vie au Seigneur, tu es perdu pour l'éternité. Mais Dieu n'est pas résolu à ce qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Ça, c'est le plan de Dieu. Et il nous utilise. Et il n'y a pas de joie plus grande que d'amener quelqu'un au Seigneur, de le conduire, d'être conduit par le Seigneur, à ce que le Seigneur puisse nous utiliser. Alors certes, dans l'humilité, c'est un peu là que ça se complique. Souvent, on aurait tendance à s'attribuer la gloire qui revient finalement à Dieu seul. Que Dieu nous garde de rester dans l'humilité. Alléluia. Donc, le jugement, il vient. Et aujourd'hui, on va continuer avec encore quelques vallées, et peut-être certains peuvent se retrouver dans cette vallée. La première, elle va réjouir de notre cœur. Hein. J'espère, peut-être, je sais pas, avoir un amen et demi. C'est la vallée de Béréka, qui signifie bénédiction. Alléluia. Amen. Et oui, la bénédiction du Seigneur. Bénir. Et on peut bénir Dieu. Alors moi, ça me, au tout début, ça m'a complètement dépassé. Je dirais, mais moi, un être si faible que moi, je peux bénir Dieu. Alors que veut dire bénir? Bénir veut dire du bien. Et c'est ce qu'on a fait ce matin. On a dit du bien de la part de notre Seigneur. On lui a dit qu'il était bon, qu'il a été grand, qu'il a été puissant, que son amour a été déversé dans nos vies. Alors, dire du bien, c'est bénir le Seigneur. Et c'est dans cette vallée que va se retrouver à un moment donné le peuple. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 26, on va revenir régulièrement au travers de ce chapitre, et on va voir combien cet épisode est incroyable. Hein. Il est extraordinaire et il va nous enseigner encore ce matin. 2 Chroniques, chapitre 20, et on va lire le verset 26. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béréka, où ils bénirent l'Éternel. Ils vont dire du bien à l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béréka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Hein, on est d'accord avec ça. Alors, quand le peuple arrive et il commence à bénir Dieu, à dire du bien à Dieu, mais si on revient un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé donc juste avant? On lit donc 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1er, 2 Chroniques 20, 1er. Voilà. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est Engedi. » Dans sa frayeur, j'aime beaucoup la réaction de Josaphat. Verset 3, il dit, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. » Ici, ce passage nous dit que tout d'abord, ils reçoivent une mauvaise nouvelle. Un peuple nombreux vient faire la guerre à Josaphat. Et Josaphat, et là ça nous montre finalement l'humanité de ce roi, l'humanité de l'homme de Dieu, qui finalement nous donne la perspective de qui nous sommes finalement. Quand il apprend cette nouvelle, il nous est dit qu'il est rempli de frayeur. Et malgré sa frayeur, il va avoir une bonne réaction. Comme quoi, c'est possible. Et la bonne réaction, c'est que il disposa son cœur à chercher l'Éternel. Quel enseignement puissant pour chacun d'entre nous ce matin. On peut recevoir des mauvaises nouvelles de toutes parts. Mais la bonne réaction, c'est, Seigneur, je comprends pas ce qui m'arrive. Je sais pas, Seigneur, pourquoi cette chose, cette mauvaise nouvelle, cette situation, elle arrive. Mais Seigneur, je veux te chercher. Et quand on a cette disposition de cœur, alors c'est une bonne réaction devant le Seigneur, on l'a vu au verset 3. Et ce qu'il va faire, c'est que comme c'est un peuple qui vient les attaquer, il va convoquer tout le peuple avec un jeûne, et donc le jeûne et la prière qui est une arme qui est puissante, alléluia. Le jeûne et la prière. Pour chacun d'entre nous, combattre dans les moments difficiles, hein, chercher le Seigneur. Et puis il est dit au verset 4 qu'ils ont invoqué le nom de l'Éternel. C'est un exemple pour nous que quand nous sommes bombardés, la frayeur peut être là, on le voit, mais avoir cette bonne attitude et cette bonne réaction de chercher l'Éternel, de soupirer après lui, alléluia, ils invoquèrent le nom de l'Éternel. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand on cherche le nom de l'Éternel, le nom, c'est la puissance, c'est l'autorité de l'Éternel, alléluia. D'ailleurs, on le voit partout dans la Bible, hein, on voit que Dieu donc se présente et se définit de plusieurs façons et de plusieurs manières. Si je vous dis par exemple que Dieu se définit par El Shaddai, c'est pour nous faire comprendre qu'il est le Tout-Puissant. Que rien ne lui est impossible, alléluia. Donc là, ils vont invoquer le nom du Seigneur, et on vient de tout Juda. Ça représente ici l'unité. Il y a une unité qui est tellement nécessaire. Aujourd'hui, plus que jamais, on l'avait vu certains dimanches, où l'apôtre Paul va avoir une révélation des temps de la fin. Il dirait, sache, et il écrit au jeune Timothée, il dit, sache qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, irreligieux, ingrats. Et ça, on le retrouve. Vous pourrez croire que ça s'adresse à des non-croyants. Non, non, hein. Ça s'adresse à ceux et celles qui, finalement, ont fait une expérience avec le Seigneur. Et ici, situation d'urgence, appel à l'unité. Et je crois que nous, en tant qu'Église, nous sommes dans une période où nous sommes en situation d'urgence et il y a besoin que le peuple de Dieu s'unisse ensemble afin de pouvoir chercher la face du Seigneur. Et il y a cette promesse pour nous tous, où Dieu nous dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Amen. Alors on peut le faire individuellement, évidemment, et j'espère que vous le faites, mais en tant qu'Église, être unis, un seul corps, Jésus qui est à la tête, mais nous voulons nous lever pour dire, Seigneur, vois notre situation. Seigneur, vois combien d'hommes et de femmes sont perdus, ne t'appartiennent pas. Si tu revenais là aujourd'hui, ils iraient sûrement passer l'éternité, donc en enfer. Seigneur, lève-toi. Et la Bible nous dit que quand Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient. Ça, c'est la réalité des choses. Alors, le peuple, ils vont s'unir parce qu'il y a une situation d'urgence. Et c'est un message pour chacun d'entre nous. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand on cherche le Seigneur répond toujours. Je le répète, quand on cherche le Seigneur répond toujours. Alors, des fois, pas comme nous, on souhaiterait qu'il nous parle. Des fois, on arrive avec nos plans préétablis, on arrive devant le Seigneur, on ne le cherche pas. On lui impose comment lui devrait faire. Cette attitude est à bannir. Vous direz, Seigneur, agis puissamment. Je sais, Seigneur, je te fais confiance et agis pour toutes choses. Et on voit dans ce même chapitre, c'est Dieu qui prend les choses en main. Et quand Dieu prend les choses en main, alors regardez les promesses. Verset 14, il nous est dit, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Éternel Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. » Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, une parole personnelle pour lui. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. » Regardez encore la promesse. « Demain, descendez contre eux. » Ils vont monter. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter, oui, par la colline de Tzitz. Et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et il y a la précision, le Seigneur dit, ben, vous allez aller à tel endroit. Et là, le combat va pouvoir avoir lieu. Mais pas le combat comme eux l'entendaient. Regardez, verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Amen. Alléluia. Ici, on découvre que c'est le Seigneur qui va arriver, il va parler, parce que le Seigneur parle toujours, on l'a dit, et il vient avec un message qui va réconforter. Et il demande au peuple, il va leur dire, mais en fait, c'est pas vous qui allez combattre. C'est moi qui vais combattre. Parce que vous êtes sous ma responsabilité, et donc sous mon nom. Dieu va se lever. Mais on remarque également que tout ne tombe pas cuit du ciel. Il y a toujours une participation. Il dit, mais vous, votre responsabilité au peuple. Il dit, c'est de se présenter, c'est de se lever et de se présenter face à l'ennemi, face à cette multitude qui est là. Alors, je ne sais pas comment, au niveau de l'imagination, mais dans cette histoire, alors on a vu qu'ils étaient saisis, donc il y avait de la frayeur, et le Seigneur leur dit, mais allez vous présenter devant. Donc il y a quelque chose qui nous incombe, se présenter. Il dit, mais, et tenez-vous là. À cet endroit précis, les directives, c'est ne craignez pas, n'ayez pas la frayeur, faites disparaître. Et il est en train de leur dire, maintenant. Alors c'est moi qui extrapole là, ici. Asseyez-vous bien confortablement et regardez le spectacle. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de tellement merveilleux. Quand je vous disais tout à l'heure que Dieu se lève, ses ennemis s'enfuient, et quand c'est lui qui combat, la victoire, elle est automatiquement assurée. Verset 24, regardez la suite. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'était des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles, ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Regardez, hein, des fois il faut le lire, Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Et donc là, on se retrouve, verset 26, le verset qu'on a lu en introduction. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béréka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu, etc., Béréka. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur, non seulement il promet, il dit, mais vous, présentez-vous. Et maintenant, regardez comment moi, je vais agir. La victoire, elle est tellement totale. Ils vont mettre 3 jours pour prendre toutes les richesses et tous les biens. Et là, on découvre que dans cette vallée, oui, absolument, Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est le Dieu de l'abondance. Souvent, nous nous conformons à vivre avec peu. Nous avons un grand Dieu. Alors demandons de grandes choses, alléluia, pas pour que, à un moment donné, voilà, ça flatte notre ego, mais pour la gloire de son nom. Et Seigneur, que ces chaises vides là soient remplies, pas pour dire aux autres églises, regardez quelle belle église nous avons, mais c'est d'arracher une à une les âmes à l'enfer, alléluia. Amen. Et la délivrance, elle a été extraordinaire. Oui, Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu de la bénédiction. Amen. Les cadavres étaient étendus d'abondantes richesses. Les bénédictions sont nombreuses. Et ce qui nous encourage ce matin, c'est que le Seigneur n'a pas terminé avec nous. Si peut-être tu es dans cette vallée, peut-être de la disette, dis-toi que si tu cherches le Seigneur, c'est finalement la leçon pour chacun d'entre nous. Si on cherche le Seigneur, quand le Seigneur va nous parler, alors on va se tenir donc en face des adversaires et le Seigneur va se glorifier puissamment et nous allons vivre la bénédiction dans nos vies. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement la bénédiction? Peut-être un mari récalcitrant qui ne veut rien entendre de la part du Seigneur. Un membre de notre famille, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Et de se tourner vers lui. Amen. Hier, on discutait avec cette doctrine de la sotériologie. Alors quand j'ai demandé aux jeunes ce que c'était la sotériologie, ils m'ont regardé, bizarre, c'est la doctrine du salut, la sotériologie. Et c'est tellement merveilleux de considérer, mais aussi tellement mystérieux, dans une même réunion, 2 personnes assises à côté. Il y en a une qui va être touchée par le Seigneur, et puis l'autre va repartir sans avoir rien eu, entre parenthèses. Mais en fait, la proposition, elle est pour tous. Et je crois de tout mon cœur, encore et toujours, que oui, pour le monde, c'est une folie de prêcher la croix. Mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous trouve en train de travailler pour la gloire de son nom. Assurément, il va nous bénir. Alléluia. Amen. Et vous savez, des fois, avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Un jour, quelqu'un a dit, Seigneur, je n'ai que mon cœur à t'offrir, c'est pas grand chose. Et le Seigneur dit, mais c'est simplement, c'est tout ce que je veux. Et le Seigneur va multiplier à chacun d'entre nous parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Je vous assure, je vous promets, je pourrais passer le reste des minutes que nous avons à vous raconter combien le Seigneur nous a bénis. Alors c'est pas l'évangile de la prospérité, mais le Seigneur nous rend prospères. Parce qu'en fait, notre seule motivation, c'est de plaire à Dieu. Alléluia. C'est de le chercher. Et lui, il se manifeste puissamment. Alléluia. Alors, dans cette vallée, il ne faut pas y rester, mais chercher la bénédiction de notre Dieu. Amen. Une seconde vallée, c'est la vallée d'Eschol, qui signifie fertilité. Nous sommes appelés à produire du fruit. Et pas n'importe quel fruit, on va le voir, hein, il y a une complémentarité même au niveau des vallées. Nombre 13, verset 23. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eschol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Il y a des versets, frères et sœurs, soyons honnêtes, hein. Il y a des versets, se dit, un raisin, une grappe de raisin, obligé de le porter sur une perche, de le porter à deux, tellement c'est grand. Alors, que représente cette grappe? Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Cette grappe, elle symbolise l'abondance de la richesse du pays promis de Dieu. Ça nous montre que Dieu donne en abondance, alléluia, dans le pays. Alors, quand on donne notre vie au Seigneur, ce que le Seigneur attend et s'attend de chacun d'entre nous, c'est que nous portions du fruit. Et que ce fruit, il demeure. La question, elle est, quel fruit portons-nous ? Être fertile ? Oui, mais comment ? Alors, merci Seigneur, parce que dans ce livre, il y a toutes les réponses à toutes nos questions. La Bible nous répond, comment être fertile ? Jean, chapitre 12, verset 24. Peut-être que nous, en tout cas moi, peut-être j'aurais dit autre chose. Regardez ce que dit le Seigneur Jésus, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tout d'abord, on voit ici, première chose, pour être fertile, il faut tomber à terre. C'est ce que nous dit ce verset. Hein. Tomber à terre, c'est la période de nos vies où on doit accepter l'école du Seigneur. C'est à ce moment-là où il y a la transformation. Et je bénis Dieu parce qu'encore aujourd'hui, en 2025, cette parole, elle est puissante pour transformer les vies. Et j'espère de tout mon cœur que cette parole, elle continue à nous atteindre et à nous transformer, jour après jour, et de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Donc, tomber à terre, c'est également se soumettre au Seigneur. Regardez, j'aime beaucoup, peut-être qu'un jour on partagera sur ce thème-là, les paradoxes dans la Bible. Regardez le paradoxe. Pour vivre, il faut mourir. Ça, c'est un paradoxe. Pour vivre, il faut mourir. Donc, tomber à terre et ensuite mourir. Quand le grain tombe, il se détériore, se transforme et change d'état. Toutes les images qui sont employées par le Seigneur ne sont pas laissées au hasard. Si le Seigneur dit, en fait, il est en train de leur expliquer par cette image simple que le blé, quand il tombe, mais à un moment donné, donc il va se détériorer et ça va produire une transformation et un changement d'état. Et ça, en fait, c'est nous. Nous étions des pécheurs invétérés. Le Seigneur est venu nous accorder une vie nouvelle. Nous sommes passés par cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, elle nous transforme. Et désormais, notre nature pécheresse a été changée en une nature spirituelle. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Amen. Et donc, pour cela, il faut mourir. Tant qu'on est encore un peu vivant, ça ne marchera pas. La condition ici, c'est de mourir. Et Dieu veut, par notre mort, changer notre nature et également arracher ce qui est mauvais. Parce que cette nature, elle nous mène tout droit loin de Dieu. Donc, ce n'est pas une option, ce n'est pas négociable. C'est un impératif, une nécessité pour chacun d'entre nous. C'est de mourir à soi-même. Ce n'est pas facile, hein. Quand on parle de mort, mais tellement important. Alors, pour porter du fruit, on a vu que de quelle manière être fertile. Et pour porter du fruit, il y a évidemment des ingrédients à trouver. Et pour porter du fruit à la gloire de Dieu. Tout d'abord, le terreau, la terre. La terre, elle a besoin d'être travaillée. Remuer, hein, tous ceux qui font du jardinage savent de quoi on parle. Et tout ça pour que cette terre, des fois il faut l'enrichir, afin qu'elle permette les meilleures productions de fruits dans nos vies. Alléluia. Dieu veut nous donner les fruits les meilleurs, et avec abondance. Donc tout d'abord, le terreau, cette terre qui a besoin de travailler. Et ensuite, une fois que la graine est lancée, Il faut qu'elle puisse pousser et il y a cette sève. Et la sève, c'est l'image de la vie. C'est l'image de la vie de Dieu en chacun d'entre nous. Ça, c'est un miracle merveilleux. Hein, de savoir que Dieu vit en chacun d'entre nous, qu'il est vivant, qu'il parle à nos cœurs, alléluia. Et c'est ce qui nous aide, c'est le but de toute une vie. C'est cette sève. Donc la vigne transmet la sève aux branches pour qu'elle soit bien vivante et qu'elle porte du bon fruit. Pas du beau fruit. Pas quelque chose qui peut laisser paraître quelque chose de beau, mais quelque chose de bon, que l'on goûte bon. Alors, je ne sais pas si c'est trop français, pas trop français. Parce que ce monde se meurt. Et il a besoin de goûter une nourriture qui nous vient d'en haut. Alléluia. Cette sève, évidemment, on le comprend très bien. Hein, dans Jean chapitre 15, le Seigneur va faire cette démonstration magistrale quant à la vigne. Il dit, mais moi je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Il n'y a pas un seul sarment. Et aujourd'hui, on pourrait le croire. Hein, mais moi, je fais ce que je veux. Je suis un indépendant. Et si on ne le dit pas, on vit en tant que tel. Mais il n'y a aucun sarment qui est détaché du cep qui peut vivre. La Bible qualifie ce sarment. Il dit, mais si le sarment il est arraché, il n'est pas connecté au cep, il ne sert plus qu'à être brûlé. Alors, notre responsabilité, c'est d'être toujours connecté, de vérifier si nous sommes connectés avec ce cep, afin que la sève, elle coule. Et vous savez, quand il y a la sève, il y a la vie. Et quand il y a la vie dans la vie de quelqu'un, ça se voit. On est rayonnant de joie. On est constamment bouleversé. J'espère que tous ceux et celles qui ont plus de 20 ans de conversion, vous êtes encore émerveillés de ce que Dieu fait dans vos vies. Alléluia. Surtout, ne vous lassez pas. Continuellement, jour après jour, dire Seigneur, je suis tellement émerveillé. Amen. Donc, cette sève, c'est la vie. Et le résultat, c'est le fruit. Et le fruit, c'est le but hein, que le Seigneur poursuit dans nos vies, c'est de récolter des fruits. Alors, est-ce que ce fruit, il est probant? Est-ce qu'il est là? Le fruit de l'Esprit s'épanouit quand nous demeurons dans son amour et quand nous obéissons à ses commandements par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le contraire de la fertilité, c'est la stérilité. Et on sait que dans l'Ancien Testament, hein, la stérilité, ben, c'était une malédiction. Hein. C'était une malédiction, mais que nous sommes appelés à chacun d'entre nous à produire un fruit. Et un fruit qui demeure, nous dit un passage, jusque dans l'éternité. Alléluia. Et puis une dernière vallée, et peut-être que cette vallée, plusieurs s'y trouvent ce matin. J'aimerais vous dire d'emblée que le Seigneur veut nous sortir de cette vallée. C'est la vallée de Baca. C'est la vallée des pleurs. C'est ce que signifie Baca. Psaume 84. Le psaume 84, qui est un psaume extraordinaire. On voit ici le cœur de l'homme de Dieu. Cette transparence au chef des chants sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Les autels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Verset 7. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Et là, il y a une pause qui s'impose. Parce qu'il a dit tellement de choses, tellement Il réalise certaines choses qu'il fait. Il a besoin de faire une pause pour réaliser cela. Et il continue en disant, « Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Amen. » Dans cette vallée des pleurs, j'aimerais vous dire que tôt ou tard, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on va y passer. C'est le lot de chacun. C'est le lot de nous tous. La souffrance, Baka, les larmes. La souffrance, elle est inéluctable, une vallée que chaque croyant sera amené à traverser. Elle fait partie de la vie terrestre. Et Dieu est aussi le Dieu des vallées et il souhaite nous aider à traverser cette vallée. Dans cette vallée des pleurs, il ne nous abandonne pas. On peut avoir cette sensation que Dieu nous a abandonnés. Si on ne le dit pas, si on ne fait pas cette prière, mais ça arrive, Seigneur, mais pourquoi ? Je me sens seul, je me sens abandonné. Cette semaine, je pensais à ça, à la solitude. Quand dans nos cœurs, on vit une solitude profonde. Et vous le savez, hein, la solitude n'a rien à voir avec les gens qui nous entourent. On peut être au milieu d'une foule et se sentir seul. Et c'est comme cela que le Seigneur se présente. Il dit, mais moi, je veux être ton ami, je veux être près de toi. Je suis auprès de toi. Ressaisis-toi, ouvre les yeux. Je suis là. Et ne laisse pas les mensonges de l'ennemi ou tes propres mensonges dominer. Mais déclarer la parole de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus va dire, il va faire cette déclaration encore une fois, il va dire, mais je suis avec vous quand ? Tous les jours. Jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin du monde. Je ne crois pas que la fin du monde est arrivée. Je ne pense pas. Alors Jésus est avec nous et on doit déclarer, Seigneur, tu es avec moi. Alors Seigneur, réconforte-moi, j'ai besoin de toi. Quand on parle de larmes et de souffrances, évidemment que ça nous fait penser à ces souffrances secrètes. Celles qu'on ne dit à personne. On les garde pour nous. Et des fois, sous une carapace où on s'est endurci. Mais derrière, on vit un drame. Les mots physiques sont nombreux et se voient le plus souvent. Mais les souffrances, les blessures secrètes et intérieures ne se voient pas. C'est ce fameux jardin secret. La clé, on a fermé à double tour, à triple tour, et personne ne voit. Dans la Bible, il y a une situation comme ça, il y en a beaucoup. Et en préparant ces moments, je pensais justement à une situation des souffrances secrètes. C'est l'histoire d'une femme. C'est Anne. Cette femme, donc à l'époque c'était comme ça, hein, donc il y avait une autre concubine, elle avait pu enfanter, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et alors il y avait quelque chose, son cœur était serré. Quand je pense à Anne, il y a une situation qui est particulière ici. Anne veut dire faveur, grâce ou élégance. Il me semble l'entendre là, à ce moment-là, dire, mais elle est où la faveur de Dieu ? Elle est où la grâce ? Elle est où ? C'est où l'élégance alors que ma vie ne ressemble plus à rien ? La souffrance d'Anne, elle est immense, parce qu'elle vit une frustration au fond de son cœur, autour de laquelle tourne sa vie. Anne nourrit intérieurement un ensemble de sentiments pénibles. Elle est en train de vivre une certaine injustice, une humiliation, une impuissance. Elle est en train de vivre la stérilité dans sa vie. Alors, chaque année, c'était l'habitude à ce moment-là, ils montaient tous en famille pour aller au pèlerinage annuel. Au lieu de la soulager, le fait de se rendre à ce pèlerinage augmentait encore sa souffrance. Alors, on va dire, sa concurrente, hein, Spénina, qui va lui dire, elle va lui conseiller, elle va lui donner un conseil terrible. Elle va lui conseiller de se révolter contre Dieu. C'est déjà arrivé à Job, vous vous rappelez, hein. Maudit Dieu et meurt. Waouh, quel conseil. Poussé à se révolter, il dit, mais, et dis à Dieu, finalement, cette amertume qu'il y a dans ton cœur, des paroles blessantes à Dieu, vous le lirez à 1 Samuel chapitre 1. Mais, il va y avoir un temps de ressaisissement de la part d'Anne. Elle ne va pas rester dans cette position, dans cette vallée des pleurs. Elle va se relever. Anne, regardez le processus de guérison. Anne se leva. On a souvent besoin de nous lever de la situation où nous nous trouvons. On est au sol et puis on se laisse faire, hein. On se laisse entraîner, on n'a plus même la force de se lever. Mais cela, encore une fois, nous incombe. Notre responsabilité, c'est de se dire, je me lève. Anne se leva. Et elle va se lever, j'aime beaucoup, encore une fois, la précision de la parole de Dieu. Si vous lisez ce texte, vous allez voir. Elle se leva, l'amertume dans l'âme, c'est-à-dire qu'encore son problème persiste, il est là encore. Et malgré ça, elle prend la décision de se lever. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie à l'Éternel. Elle s'adresse à la bonne personne. Elle prie à l'Éternel. Et là, on voit sa sincérité. Elle versa des pleurs, des larmes. Elle est en train de traverser la vallée de Baca. Là. Je fais simple, court. Au verset 18, action de Dieu. Regardez comment l'histoire se termine. Et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Il semblerait qu'il ne se soit rien passé. Un petit détail encore. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Transformation. Vallée des pleurs en vallée de joie et d'espérance. Un temps de ressaisissement. C'est également ces blessures secrètes. Il y a quand même quelque chose que le Seigneur veut nous montrer encore ce matin. C'est de prendre la décision de nous lever et de dire, Seigneur, je veux t'adresser cette parole. Peut-être quelqu'un pourrait dire, mais j'ai fait cette prière tellement de fois. Refais-la encore une fois. Encore et toujours, jusqu'à l'obtention. Et s'il y a quelque chose, demandez au Seigneur, Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'être rassuré. Parce que on a besoin, hein, souvent, on est ballotté, on a besoin de direction, on a besoin que le Seigneur nous parle. Et je crois plus que jamais qu'en 2025, le Seigneur parle encore. Alléluia. Un temps de ressaisissement. Il y a également dans le Nouveau Testament un autre exemple de blessure secrète. C'est l'exemple d'un lépreux. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 1er. Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alléluia. Amen. Cet homme, un lépreux, je dis que cette histoire, elle ne s'est pas passée à n'importe quel moment. On l'a lu ensemble, une rencontre à un moment précis, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, après avoir donc apporté le plus grand discours que la terre ait pu entendre. Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Après ce discours, Jésus vient à un moment précis pour confirmer ce qu'il vient de dire. Heureux les pauvres en esprit. Heureux, 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 bienheureux, répétez à plusieurs fois, pour qu'on puisse le réaliser. Et là, c'est comme si le Seigneur Jésus est en train de dire, je vous ai fait un discours, mais ça ne s'arrête pas là, maintenant vous allez voir les œuvres. Rencontre à un moment précis. Et cet homme, il est courageux, encore une fois, il se ressaisit. Il saisit l'occasion de sortir de la vallée des pleurs parce qu'il a dû en verser des larmes. le courage de cet homme lépreux s'étant approché. D'abord du courage parce que les lépreux étaient exclus de la société. Ils ne pouvaient pas s'approcher. D'ailleurs, quand ils s'approchaient un peu trop, ils avaient une cloche, hein, lépreux, lépreux. Rendez-vous compte, hein, pour la fierté humaine. Terrible. Il va avoir quand même cette bonne attitude. Il s'est dit, malgré ce que les hommes peuvent me faire, je veux saisir l'occasion d'avoir la guérison dans ma vie. Je dis, il s'approcha du Seigneur et se prosterna devant lui. En fait, il est en train de reconnaître que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il a la toute puissance pour donc subvenir et le guérir. Alléluia. Et puis, il ne va pas s'embarrasser, hein. Il va aller avec une requête directe. Il va dire, tu peux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus aurait pu, hein, comme ça, simplement lui dire, ben, il va lui dire d'ailleurs, hein, je le veux, sois pur. Mais regardez le petit détail où on pourrait passer par-dessus. Jésus le toucha. Pour nous, ça peut paraître banal, mais à ce moment-là, qu'un lépreux qui vient déjà dans la foule, c'était quelque chose, vous pouvez voir là, à ce moment-là, la foule commencer à le regarder et puis commencer à reculer afin de ne pas être contaminé. Jésus, qui est au-dessus de la maladie, il va le toucher lui. Et quand il le touche, c'est comme pour passer ce message. C'est pas comme, c'est pour passer ce message, pour dire que Jésus est au-dessus de la maladie. Et que rien d'impur peut toucher le pur. Parce que lui, il était pur, évidemment. Quelle image extraordinaire. Jésus le toucha. Ses souffrances abrégées sur le moment. Aussitôt, j'aime beaucoup les aussitôt dans la Bible. Et aussitôt, il fut purifié. On imagine cet homme. On ne sait pas dans quelles circonstances il a découvert sa lèpre. Peut-être que c'était le matin en se rasant. Rendez-vous compte. Peut-être avec un miroir un peu flou, il a commencé à avoir un bouton. Une éruption cutanée qui était là, il a essayé peut-être de le cacher parce qu'il savait les répercussions derrière. Il a dû être en panique, il dit « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et donc il est en train de traverser cette vallée des pleurs, vallée de Baca, et puis il va saisir le moment de la délivrance. Il va avoir du courage. Que Dieu nous donne du courage ce matin, de pouvoir venir avec la foi. Vous savez que toucher Jésus, c'est possible ce matin. Tu peux toucher Jésus par la foi que tu as en lui. Tu peux toucher le bord de son vêtement ce matin. Frères et sœurs, je l'ai expérimenté à maintes reprises. Combien de fois sur quelqu'un sur la chaise, avoir un besoin, simplement le croire, instantanément le Seigneur agir pour la gloire du Seigneur. Alors surtout, ne doutez pas. Et si vous êtes dans cette vallée des pleurs, le Seigneur veut nous en sortir. Pourquoi ? Parce qu'on l'a lu, hein, au verset 7. Regardez ce processus encore une fois. Où il est dit, psaume 84, « Et lorsqu'il traverse la vallée de Baca, » alors je m'aperçois de quelque chose ici. Ce n'est pas un endroit où je dois y rester. C'est un endroit de transit. Et lorsqu'il traverse, lorsqu'on traverse une certaine situation, regardez la transformation, expérimenter la transformation, il la transforme en un lieu plein de sources, ça c'est le miracle de Dieu. Le lieu plein de sources, la source par définition est un lieu de rafraîchissement, un lieu où naît un cours d'eau, quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. Alléluia. Amen. Et Dieu, donc, viendra nous bénir à la sortie de cette vallée et de ce désert de chagrin. Quelle espérance dans nos cœurs. Le meilleur est à venir et sa force est à notre disposition. Et si c'était ce matin qu'on puisse sortir de cette vallée, travers de ce partage, le Seigneur, vraiment, vous savez, des fois, c'est fort dans les cœurs. Moi, je ne suis pas quelqu'un pour vous dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Mais en préparant ces moments, je pensais à certaines situations que certains peuvent vivre. C'est comme si le Seigneur disait, voilà, tu vas sortir de cette vallée. Tu vas sortir de cette vallée, là, maintenant, ce matin. Alors, saisissez par la foi. Et comme on l'a vu avec la vallée précédente, regardez le Seigneur agir. Faites confiance au Seigneur. Surtout que le doute ne vous envahisse pas. Ne marchez pas par ce que vous voyez, mais marchez par la foi avec les promesses du Seigneur. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous avons partagé avec encore ces vallées, Seigneur, les enseignements qui sont là. Seigneur, je bénis ton nom parce que au travers de cette parole, Seigneur mon Dieu, tu veux nous libérer, nous délivrer. Seigneur, il y a tellement de choses qui peuvent accaparer une vie. Seigneur, il y a des vallées qui sont là. Seigneur, tu veux nous aider à les traverser afin que nous allions à la montagne de l'Éternel dans ta présence. Seigneur, je bénis, je glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, encore ce matin. Pour tous ceux et celles qui ont été interpellés, Seigneur. Tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Ils sont dans la vallée, ils ont la sensation d'être seuls. Une vallée peut-être de mort. Mais Seigneur, nous déclarons la vie ce matin. Nous déclarons, alléluia, que toi, tu es celui qui nous sort de là. Et c'est toi qui viens, Seigneur mon Dieu, nous chercher. Mais tu nous demandes, Seigneur, également de pouvoir nous lever, de prendre une décision ce matin, afin que tu puisses agir. Je bénis ton nom et je te glorifie. Alléluia. Amen.